temps de la méditation. Ce sera le dernier volet sur les qualités bibliques. De Pierre, chapitre 1er, relisons ces versets. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et là, c'est extraordinaire, nous passons de la grâce à la puissance, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, à cause de ce que le Seigneur nous a donné, et à cause de l'héritage des promesses qui sont devant nous, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi. Faites tous vos efforts pour joindre à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si, conditionnel, si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordé. Amen. Les qualités bibliques. Quand on lit ça, on s'aperçoit que ce ne sont pas une option, mais que c'est véritablement là une obligation, une excellence de vie à laquelle nous sommes appelés à vivre. Alors, effectivement, la semaine dernière, nous avions déjà vu le thème de l'amitié fraternelle. Et là, il nous est demandé d'ajouter à l'amitié fraternelle l'amour. On s'est dit, mais c'est la parole de Dieu nous aurait pu tout simplement nous inviter à l'amour. Et s'il y a l'amour, il y a tout. Hein, c'est-à-dire, c'est biblique. Avec l'amour, il y a tout. Il y a effectivement dans le texte grec une subtilité qui est marquée là par deux mots, Philadelphia et Agapé. Si je vous dis que j'aime les frites, vous comprenez ce que ça veut dire. Si je vous dis que j'aime ma femme, vous comprenez aussi ce que ça veut dire, mais j'espère que vous comprenez que ce n'est pas sur le même niveau. J'aime plus ma femme que les frites. Hein. Et c'est le sens de ces mots qui est là dans le texte grec. Quand il est parlé d'amitié fraternelle, on avait déjà vu, c'est amour fraternel, communion fraternelle. C'est ce mot qui c'est Philadelphia, mais on verra tout à l'heure. Et donc il nous dit, à l'amitié fraternelle, à cet amour-là, il faut que vous recherchiez, que vous rajoutiez l'amour, un amour agapé. Et quand même, on avait vu quand même que la semaine dernière, c'était déjà pas mal l'amour fraternel. On va juste se rappeler ça. C'est quoi l'amour fraternel? C'est se pardonner, c'est s'encourager dans les épreuves, c'est s'exhorter à aller plus loin, C'est se reprendre s'il a un péché. C'est prendre soin de l'autre, veiller sur lui. C'est prier les uns pour les autres. C'est quand même beau l'amitié fraternelle. On avait vu les moyens aussi de cette communion, de cette amitié fraternelle. Par une vie d'église entretenue. Par l'entraide matérielle. Par le fait d'avoir des projets, des services, des activités en commun. Le fait de faire des choses ensemble. Le fait tout simplement et très efficacement, le fait de se rendre visite. J'aime ce verset qui dit qu'ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La chose la plus simple dans la communion fraternelle, c'est déjà de se rapprocher les uns les autres dans des simples choses de la vie. Donc déjà, franchement, l'amitié fraternelle, c'est pas mal. Si déjà on arrivait à vivre ça avec un pourcentage un peu plus élevé, ce serait louable. Alors, à ce beau tableau, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Pourtant, la Bible nous dit bien d'ajouter à l'amitié fraternelle l'amour. Alors, comprenons bien que ce matin, au travers de cette agapé que le Seigneur nous demande de mettre, d'ajouter à l'amitié fraternelle, il n'est pas en train de nous inviter à faire plus de choses. Il ne nous est pas demandé là de rajouter des œuvres à ce qui est vu. Parce que, en fait, l'amour, c'est ça, c'est ce qu'on a vu. C'est ce pardon, ce prendre soin, cette considération, cette compassion. C'est ça l'amour. Quand vous relisez en 1 Corinthiens chapitre 13 la définition de l'amour, on est amené à faire ça. Mais en fait, dans cet amour que le Seigneur nous demande d'ajouter, c'est une mentalité. C'est une disposition intérieure. C'est une manière de regarder l'autre autrement. Alors, je vais vous montrer au travers de quelques versets, justement la différence que l'on peut trouver entre l'amitié fraternelle et l'amour, l'agapé. Tu peux d'ailleurs mettre, voilà, je vous ai mis cette petite notion-là, mais on reviendra sur ça. L'amitié fraternelle pourrait se définir selon Galates, chapitre 3, verset 28, un verset qui est connu, qui dit « Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a plus esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. » Ça, c'est l'amour fraternel. On est tous pareils devant Dieu. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de fort, il n'y a pas de faible. Ça, c'est l'amour fraternel. On est pareil. À part que, si on ajoute cet amour, cet agapé, alors on pourra vivre ce qu'il est dit en Philippiens chapitre 2, verset 3, que l'humilité, on l'a chanté, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Marc chapitre 10, verset 44. Quiconque veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Amen. Oui, nous sommes égaux. Nous sommes identiques, nous avons la même valeur. Il n'y a pas de grand ni de petit, ni de fer, ni de fort, ni de faible. Mais si je rajoute de l'agapé dans mon cœur, alors je vais considérer, je vais faire l'effort de regarder mon prochain comme étant au-dessus. Bien sûr, il est égal, et je pourrais le traiter comme mon égal, mais dans mon cœur, je vais le considérer comme au-dessus. J'ai peut-être des qualités qui sont peut-être dans certains domaines meilleurs que celui de l'autre. Mais parce que dans mon cœur, je vais vouloir mettre de l'agapé, je ne vais pas me rendre supérieur à cette personne, mais je vais me rendre serviteur de cette personne. L'agapé fait que, évidemment, on va se soumettre les uns aux autres. Non pas que on va m'obliger à me soumettre, mais volontairement, je me soumets à mon frère, à ma sœur. Oui, égaux, mais je décide de regarder mon prochain comme étant au-dessus de moi. L'amitié fraternelle pourrait se définir par Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Pas mal. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, eh bien vous, faites-le. Souvent dans le monde, on dit l'inverse. Hein. Oui. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Comme ça, personne ne se mouille. Mais non, la parole de Dieu, elle n'est pas là dans un retrait. Elle est plutôt dans un dynamisme. Ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, eh bien toi, fais-le. Si tu sais ce qui est bon pour toi, fais-le pour les autres et n'attends pas qu'on te le demande, fais-le. Ça, c'est le point d'égalité. Ce que toi, tu aimes pour toi, fais-le pour l'autre. Si je rajoute un peu d'agapé dans mon cœur, alors j'irai plus loin. Et je pourrais mettre en pratique Matthieu chapitre 5, verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1 000, c'est une distance de 1,5 km. Si quelqu'un te force à faire 1 km, fais-en 2 avec lui. Et peut-être qu'effectivement, le rapport fraternel va nous amener à avoir la liberté de dire, tu sais, j'ai pas envie. Parce que c'est ça aussi la communion fraternelle, on l'a dit, hein, cette liberté. Si mon frère me demande de faire 5 km et que j'ai pas envie, mais si j'ai mis de l'agapé dans mon cœur, si j'ai ajouté à ma communion fraternelle l'amour, alors même si j'ai pas envie, non seulement je vais faire les 5 km, mais je vais même en faire 10 pour lui. Amen. C'est ça l'agapé. On reste dans cette dimension de communion fraternelle, de rapport d'égalité. Et ça, c'est juste. Mais parce que je vais avoir dans mon cœur des sentiments beaucoup plus nobles, des sentiments du Père, alors je vais accepter d'aller plus loin. L'amitié fraternelle pourrait se définir encore par Marc, chapitre 12, verset 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 50-50. Je t'aime comme moi. Je t'intéresse que je m'aime d'abord. Hein. Mais on reverra cette notion-là tout à l'heure. Mais le toi-même nous place bien sur un point d'égalité. Mais si je fais l'effort, si je fais tous mes efforts pour rajouter à ma communion fraternelle de l'agapé, de l'amour, alors je mettrai en pratique Romains chapitre 15, verset 7, qui me dit « Accueillez-vous donc les uns les autres, non pas comme moi-même, mais comme Christ ». Vous a accueilli. Éphésiens chapitre 4 verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, ça on l'a vu, c'est dans le rapport fraternel. Mais comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Je ne vais pas seulement traiter mon prochain par rapport à ma sensibilité, par rapport à mon ressenti, par rapport à comment moi je vis les choses. Mais je vais mettre dans mon cœur et je vais réclamer du Seigneur. Seigneur, mets-moi de ton amour pour que j'aime comme toi tu aimes. Que je pardonne comme toi tu pardonnes. Que là où moi j'ai mes limites, Seigneur, donne-moi tes limites à toi. Que là où je suis dans mon incompréhension, dans ma limitation intellectuelle, culturelle, sociale, parce que nous sommes formés de ça aussi. Mais Seigneur, donne-moi d'aimer comme toi tu aimes, de regarder comme toi tu aimes, d'estimer comme toi. Et là, nous avons vraiment besoin de l'aide de Dieu pour que cet agapé grandisse son nom. Alors oui, l'amitié fraternelle fait que je vais traiter mon frère, ma soeur, mon prochain comme moi-même. Permettez-moi de vous rappeler que ça, c'était le but de la loi de Dieu. Oui. La loi de Dieu était donnée aux hommes justement pour que chacun puisse se considérer dans ce rapport d'égalité. Mais l'agapé nous invite à aimer comme Dieu. Non pas tel que moi je voudrais, pas seulement sur un point d'égalité humain, mais avec les sentiments, ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et là, ce n'est plus le ministère de la loi, c'est le ministère de l'Esprit. Si nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, ce n'est pas seulement pour parler en langue, ce n'est pas seulement pour les dons et les miracles, mais c'est également pour que l'Esprit de Dieu, la mentalité de Dieu soit en nous. Pour que nous apprenions à voir les choses comme Dieu les voit. C'est le but de l'Esprit de Dieu en nous. Sinon, quelle différence y aurait-il entre des religieux avec une loi? Et on va avoir une bonne loi. La loi de Dieu, elle est bonne, oui. Si déjà on la mettait en pratique, ce serait déjà un rapport fraternel bien, d'égalité, d'équité même. Mais Seigneur, Je veux que tu vives en moi, que tu prennes plus de place en moi. Si nous faisons cette prière, que nous laissons l'Esprit de Dieu travailler en nous, alors nous aurons cette mentalité à considérer notre prochain comme supérieur. Alors nous aurons cette mentalité à vouloir servir notre prochain. Alors nous aurons cette notion, cette humilité à nous soumettre à l'Esprit, au désir, à la mentalité de notre prochain. On doit bien reconnaître quand même qu'il y a une différence entre notre amour, j'ai envie de dire, naturel et l'amour de Dieu. Notre amour est souvent conditionnel, qu'on le veuille ou non. Il est souvent circonstanciel. Alors que l'amour de Dieu, lui, il est constant. Il ne change pas en fonction des circonstances. L'amour de Dieu est inconditionnel. C'est-à-dire que Dieu nous aime véritablement pour ce que l'on est. Et bien souvent, nous, l'amour que l'on a avec les autres, il lui manque de cela quand même. On aime une personne parce qu'on a des atomes touchus, parce qu'il y a des points de connexion, parce qu'il y a des sensibilités qui sont là. Seigneur, apprends-moi à aimer de manière inconditionnelle. Apprends-moi à aimer les personnes pour ce qu'elles sont réellement. Bien souvent, notre amour dépend de nos ressentis, pour pas dire de nos humeurs. Heureusement que Dieu ne nous aime pas en fonction de ses humeurs. L'amour de Dieu est constant. Il ne change pas. Que Dieu nous apprenne à avoir de cet amour constant. Qu'il n'y ait pas un jour je te souris, l'autre jour je te fais la grimace. Qu'il y ait de cet amour réel. Et je ne vais pas t'aimer parce que je suis bien ou parce que t'es bien. Mais apprends-moi à t'aimer parce que tu es. Et parce que je veux te regarder comme Dieu t'aime. Parce que je veux te considérer comme Dieu te considère. Et ça change tout. Normalement, pas dans l'action, mais dans l'état de cœur. Parce que même si notre amour est inférieur à ce qu'on est en train de définir, ça ne nous empêche pas de pratiquer les œuvres de la communion fraternelle, de se voir, de s'entretenir, de s'encourager. C'est bien pour ça que l'amitié fraternelle précède l'amour. Parce qu'effectivement, c'est aussi en développant ces œuvres de rapprochement les uns avec les autres qu'on va développer un amour plus vrai, plus intense, plus juste. Que Dieu nous apprenne. Et que surtout, nous mettons beaucoup « Dieu aide-moi, Dieu apprends-nous ». Mais la parole de Dieu nous demande de faire nous tous nos efforts pour joindre à une qualité, cette haute qualité, à joindre à l'amitié fraternelle, cet amour. Alors Seigneur, oui, apprends-moi à aimer en m'attachant à la personne et pas au jugement que je fais de la personne. Vous voyez la différence? On aime les gens souvent par rapport au jugement qu'on fait d'elle. Ah, il est bien, il n'est pas bien, oh, il est comme ci, il est comme ça. Seigneur, apprends-moi à me détacher de mes jugements et à aimer la personne pour ce qu'elle est. Apprends-moi, Seigneur, à regarder les gens comme ça. C'est un effort intellectuel, c'est un effort moral, c'est un effort affectif. Apprends-moi à avoir un amour sans calcul, mais au contraire, un amour qui ne me place pas dans mes intérêts, mais qui me place dans la recherche de l'intérêt de l'autre. Seigneur, fais-moi grâce. Mais Seigneur, je veux aussi apprendre à brider ce qui en moi est encore égoïste, calculateur. Envers qui devons-nous développer cette qualité d'amour agapé? Évidemment, je ne vais pas m'attarder sur ce point-là, mais évidemment envers nos frères et sœurs premièrement. Je vais juste vous citer deux versets. Jean chapitre 15, verset 12, Jésus dit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et là, il parle évidemment de la communion fraternelle. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 22, « Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié vos âmes, alléluia, et vous avez reçu en don un amour fraternel. » Parce que c'est bien par le Saint-Esprit qu'il y a cet amour fraternel. Franchement, qu'est-ce qui fait qu'on est tous aujourd'hui dans la même salle? Franchement, humainement, nous serions tous dans des lieux différents, sans aucun atome crochu, rien du tout. Franchement, c'est incroyable quand on imagine comment, par le Saint-Esprit qui a touché notre cœur, nous avons tous le même esprit, la même mentalité pour être là ensemble. Ça, c'est un don du Seigneur. Et combien j'aime cet aspect de l'œuvre de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez reçu un don, un amour fraternel, vrai, sans feinte ni faux semblant. Aimez-vous donc de tout votre cœur et avec constance. On retrouve là la mentalité de l'amour selon Dieu, vrai, constant, véritable. Mais nous devons aussi avoir de l'amour envers tous. Selon Marc, chapitre 12, verset 31, cette phrase-là est reprise plusieurs fois dans les évangiles. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, on dit ce verset-là souvent, d'ailleurs, il est tellement utilisé qu'on se trompe un petit peu de perception de ce verset. Peut-être que le mot n'est pas très adéquat, mais rappelons-nous que ce verset-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors bien sûr, c'est un commandement, parce que Jésus l'a présenté comme ça. Quel est le plus grand commandement? D'ailleurs, quand quelqu'un vient poser la question à Jésus, rappelez-vous qu'un juif avait l'obligation d'accomplir à peu près 650 commandements. Et donc dans ces 650 commandements, il va voir Jésus, le rabbi, le maître, et dis-moi, parmi les 650 commandements, quel est le plus grand commandement? Voilà une question intéressante. Nous, on prend ça, pour nous, il n'y a pas de commandement, c'est à peu près tout pareil, c'est l'amour, c'est une évidence. Mais quand on a 600 commandements à accomplir dans la journée, on peut se demander, mais c'est quoi le plus important, quoi? Et donc la réponse de Jésus, c'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et voici le deuxième commandement qui lui est égal, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà l'accomplissement de toute la loi. Donc, Jésus présente bien cette phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme un résumé. Vous le comprenez ça? Il y a l'aspect des commandements de Dieu qui est là pour nous amener à aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il y a le critère vis-à-vis de l'autre, de mon prochain, où tous les commandements relationnels se résument par cette phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est un résumé. Le but d'un résumé, c'est que chaque mot soit super bien choisi pour que tout soit bien défini dans cette phrase-là. Et là, nous avons trois notions dans cette phrase-là. Il aurait très bien pu dire, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras comme toi-même. Tu traiteras ton prochain comme toi-même. Mais il y a trois notions. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras, et là c'est le mot agapé qui est choisi, évidemment, et qui définit l'état de cœur. Apprends à aimer Dieu, apprends à aimer comme Dieu aime. Apprends à aimer comme Dieu aime, et pas seulement de l'amour fraternel, mais apprends à aimer avec le regard de Dieu, avec le sentiment de Dieu, avec la pertinence de Dieu, avec les sentiments de Jésus. Ne regarde pas seulement ton prochain comme toi-même, mais apprends à le regarder comme Dieu le voit, comme Dieu l'estime. Ton prochain. Sous-entendu, tout être humain que tu croiseras. C'est ça, hein, le prochain. Vous vous rappelez une discussion en Luc chapitre 10 de cet homme qui, justement, à la suite de ce résumé, a dit « Mais c'est qui mon prochain ? C'est qui ?» Et là aussi, je ne vais pas le développer ce matin, mais relisez la réponse de Jésus. Jésus ne dit pas que le prochain, c'est celui que vous allez croiser à la sortie. Il dit « Toi, deviens le prochain. Toi, deviens celui qui va au-devant. Toi, deviens celui qui va apporter, qui va assister. Toi, deviens pour le malheureux le prochain. » Là encore, la parole de Dieu ne nous invite pas à être des attentistes. « Ah, si quelqu'un passe devant moi, me dit bonjour, ce sera mon prochain, je vais le saluer. » Mais c'est plutôt l'inverse. C'est à moi d'aller vers l'autre afin que je devienne pour lui son prochain. Afin que moi, je sois acteur, un sujet de bénédiction. Quelqu'un qui est proche. Et là encore, l'Évangile ne nous appelle pas à être là, retrait, proscrit, assis, attentiste, mais nous demande d'être acteur, d'être lumière, d'être sel. Toi, va vers l'autre, toi, deviens un lien social. Toi, communique l'amour que tu as reçu du Seigneur. Et comme toi-même, ça veut dire quoi, comme toi-même? En fait, si on pourrait traduire cette expression comme toi-même, c'est traite-le comme tu te traites toi-même. Traite-le comme tu traites toi-même. C'est la manière la plus fraternelle. En fait, si on pouvait paraphraser cette phrase, je l'ai inscrite en dessous. Tu aimeras chaque individu comme Dieu aime. Et c'est pourquoi tu le traiteras comme tu aimes être traité. Et c'est ça. Et c'est important. Parce qu'on dit, oh, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors soudainement, on place, comme on disait tout à l'heure, par rapport à l'amour que j'ai pour moi-même, je vais t'aimer. Mais ce n'est pas du tout le sens de la phrase. Je dois aimer tel que Dieu aime. Et si j'ai véritablement cet amour, je vais aller au-devant de lui et je vais le traiter avec soin, avec bienveillance. Qui aime ici être à ce qu'on lui parle mal? Qui ici aime se priver? Qui aime ici être brusqué? Personne. Alors le soin que j'apprécie pour moi-même, je vais le traiter de la même manière, parce que je vais te considérer non pas comme seulement égal de moi, mais je vais te considérer comme supérieur à moi. Alors je vais utiliser des pincettes, des égards, de la délicatesse, du soin. Parce qu'on aime être traité comme ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la flatterie. Mais c'est parce que nous aimons, nous sommes fragiles. Et par cet amour agapé, je vais tendre à prendre ce soin avec toi. Tu aimeras ton prochain . Tu les aimeras tous, même nos ennemis. La question, elle se pose encore ce week-end. Même les terroristes. Et nous sommes encore bien loin de vivre ce qu'ont certains ont vécu. Est-ce qu'on doit les aimer? Est-ce que quand Jésus me dit en Matthieu chapitre 5 verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Est-ce qu'il me demande d'avoir dans mon cœur de l'agape, de cet amour qui fait que je vais regarder mon ennemi comme étant au-dessus de moi? Est-ce que Dieu me demande de regarder mon ennemi comme étant au-dessus de moi? Est-ce que Dieu me demande de considérer mon ennemi, celui qui me fait mal, celui qui me meurtrit le cœur, comme étant celui que je dois servir? Jésus, tu me demandes un truc comme ça? Mais quelque part, la question est de se dire, mais c'est quoi le mot aimer? Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Mais quelque part, si Jésus, pardonnez-moi, nous demande de l'aimer de la manière Philadelphia. Mais en fait, est-ce que ce serait possible? Est-ce que c'est possible d'avoir avec mon ennemi des conversations d'encouragement, d'exhortation? Est-ce que c'est possible d'avoir avec mon ennemi des visites amicales? Est-ce que c'est possible avec mon ennemi de prendre des temps de prière, d'intercession? Ben non. Justement parce que la douleur est là, justement parce que la dureté des rapports font qu'il y a une distance qui est mise. Alors de quel amour est-ce que Dieu me demande d'avoir vis-à-vis de mon ennemi? Et bien c'est là que l'Esprit nous demande d'avoir cette agapé. Et effectivement, et là on voit combien il nous faut joindre tous nos efforts pour joindre de l'agapé dans notre cœur, pour être capable de considérer notre ennemi, celui qui nous fait mal, celui qui nous meurtrit le cœur, celui qui nous fait saigner intérieurement, celui qui nous fait verser des larmes, celui qui nous fait même peut-être peur, avec ce regard que Dieu a. Et là, on a besoin de faire beaucoup d'efforts pour canaliser nos craintes, pour accepter le pardon, pour le dire et pas seulement le penser, pour le bénir, parce que c'est le sens même de ces phrases-là. Je vous invite justement à lire Matthieu, chapitre 5. Le Seigneur me demande de faire beaucoup d'efforts parce qu'il sait que lorsque le Seigneur me demande d'aimer mon ennemi, il y a là une marche qui est peut-être trop haute actuellement pour moi. Mais c'est là, c'est sur ce chemin-là que le Seigneur nous demande d'avancer. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est la loi.
Oui.
Celui qui est copain avec toi, t'es copain avec lui. Mais celui qui est contre toi, tu le traites pareil. C'est la loi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, les païens, n'agissent-ils pas de la même manière? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et rappelons-nous que le but justement de rajouter qualité à qualité doit nous amener à tendre à cette perfection, à cet accomplissement. Qui devons-nous aimer? Après les hommes, nous devons également apprendre à aimer Dieu de manière inconditionnelle, entière. Nous devons apprendre à aimer Dieu lui-même. Il y a, on ne va pas le lire, je vous laisse le temps de le lire à la maison, en Jean chapitre 21. Un dialogue très émouvant entre Jésus et Pierre. Christ a été crucifié. Non, pardonnez-moi. Christ a été pris par les soldats romains. Pierre le suit. Et par trois fois, on demande à Pierre, est-ce que tu le connais? Mais tu fais partie d'eux. Et par trois fois, il dit, non, je ne connais même pas ce gars-là. Pourquoi vous me pourchassez comme ça? Et là, le Seigneur Jésus avait déjà annoncé que par trois fois, tu me renierais. Quand il croise le regard de Jésus, alors il se sent humilié, cassé. Parce qu'effectivement, Pierre avait renié son maître. Christ est crucifié, Christ meurt et Christ ressuscite. Amen. Et puis voilà que Pierre et avec ses collègues sont en train de vaquer à leurs occupations. Ils pêchent. Et puis sur le rivage, le Seigneur Jésus leur apparaît. Pierre se jette à l'eau, il va vers lui. Et voilà que pendant qu'ils sont en train de manger, comme quoi la communion fraternelle autour d'un repas c'est très utile, voilà que Jésus va lui poser trois questions. Pierre, décris-la, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et dans le texte, c'est, est-ce que tu m'agapes? Est-ce que tu m'aimes de cet amour-là? Et Pierre, qui sait très bien qu'il a renié le maître, Pierre qui l'a dans une situation de culpabilité, Pierre qui avait promis de suivre le Seigneur, de donner sa vie, etc., d'aller jusqu'au bout, oh là 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 là, voilà qu'il n'a pas tenu son engagement. Et Pierre, il est tout penaud, et la réponse de Pierre, c'est « Mais tu sais que je t'aime ». Et il emploie ce mot-là, « Philadelphia ». Toi, Jésus, tu me demandes si je t'aime comme ça, mais tu sais que je t'aime comme ça. Tu me demandes, Jésus, si moi je t'aime de manière inconditionnelle. Mais tu sais, Jésus, que je t'aime avec un amour tellement limité. Et Jésus sera là. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? La question, elle peut nous être aussi posée à nous ce matin. Est-ce que tu aimes Dieu? Quelle place! Il n'est pas parlé d'œuvre là. Il n'est pas savoir si vous faites des choses pour lui. Mais la question de Jésus qu'il pose à Pierre, c'est: mais est-ce que tu m'aimes de cet amour-là? De cette intensité-là? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour moi? Est-ce que j'ai cette place dans ton cœur qui fait que je suis le premier? Est-ce que je t'aime de manière à ce que je sois ta préférence au-dessus de tout? La place, l'estime, la consécration. Quelle place est-ce que Jésus a dans notre cœur? Et cette question, il est indispensable de nous la poser, parce que Jésus le dira, et l'avait déjà dit d'ailleurs à ses disciples. Si quelqu'un ne me préfère pas à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, s'il ne me préfère pas à tout, il ne peut pas être mon disciple. La question n'est pas savoir ce matin si vous aimez Dieu. Je sais que si vous êtes là, vous aimez Dieu. Mais la vraie question, c'est d'entendre la voix du Saint-Esprit nous dire: m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que? Quel amour tu as vis-à-vis de moi? Est-ce que c'est un amour intéressé? Un amour de confort? Un amour de circonstance? Ou est-ce que tu m'aimes de cet amour-là, prêt à te sacrifier, prêt à me mettre toujours au devant, devant tout ce que tu aimes? Est-ce que je suis le premier? Devant ton temps, ta gestion, devant ta femme, devant tes enfants, est-ce que tu m'aimes de cet amour-là? Faisons attention de ne pas rentrer dans une religion évangélique. Car personne n'est sauvé par une religion évangélique. C'est seul par l'amour que l'on est sauvé. Amen. L'amour de Jésus. C'est par la foi. La foi, c'est ça. Aimer Dieu, c'est ça. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ça, c'est cet agapé-là que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur nous y aide. Amen. Alors, en conclusion, de l'ensemble de ce que nous avons vu, selon 2 Pierre, chapitre 1, verset 7, rappelez-vous qu'on était parti de la foi. Cette foi qui a touché notre cœur, cette foi qui a transformé notre vie. Et puis Pierre nous encourage à ajouter une qualité à une autre, une qualité à une autre, chacune étant liée l'une par rapport à l'autre, et que ce soit pour nous comme une sorte d'évaluation. J'en suis où par rapport à ces qualités? J'en suis où? J'en suis où? Pour arriver à la qualité par excellence qui est cet amour qu'on vient de décrire, dont je suis évidemment un piètre porte-parole, mais que chacun d'entre nous, nous soyons sur ce chemin-là. Galates chapitre 5, verset 6 nous dit: en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais seule la foi qui est agissante par l'amour. Voilà ce qui importe aux yeux de Dieu, la foi qui est agissante par l'amour. Une autre traduction dit: une foi qui débouche sur l'amour, l'agapé, hein, et se traduit par des actes. C'est ça qui a de la valeur devant Dieu. J'ai ma foi, alléluia! Mais est-ce que cette foi t'amène à toujours rechercher cet amour qui se vérifiera dans les actes? Que le Seigneur nous y aide, mais rappelons-nous aussi que le Seigneur, lui, en retour, il nous dit: fais tous tes efforts pour cela. Fais tous tes efforts. Amen. Et il y a des promesses extraordinaires que nous avons lues en préambule et en conclusion. Amen.